France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
1943, Ukraine. Hugo, enfant juif évidemment menacé par les nazis, est confié à Mariana, prostituée, qui va le cacher et qui va l'aimer. La chambre de Mariana, c'est le 5e long métrage de fiction d'Emmanuel Finkiel. Il sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, deux disques passent sur le grill de la critique du jour. Song of the Earth des Dirty Projectors et Glory de Perfume Genius. Vous écoutez les midis et vous avez bien raison. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Charles Ardenne, critique musical, directeur des contenus d'Olyrix, le portail de référence sur l'opéra. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Comte, critique et auteur.
Bonjour.
Bonjour. Et Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tout le monde. Quel étrange disque que voilà pour les Dirty Projectors. Song of the Earth, le chant de la terre, s'inspire de la symphonie du même nom, composée par Gustav Mahler en 1911. 24 plages, née une première fois de la collaboration du leader du groupe new-yorkais, Dave Longstreet, avec l'orchestre de chambre berlinois Stargaze. C'était en 2020, au moment des incendies de Los Angeles, déjà dévastateur. Longstreet a passé ensuite 3 ans à triturer sa matière symphonique, 3 ans aux prises aussi avec la beauté et l'extrême fragilité de la nature tout autour de lui. On commence par un avis rapide, Christophe Comte.
Je dirais un disque monumental comme son sujet et en même temps très, très intime, très doux, monumental par son ambition, aussi par certaines des orchestrations qui sont dues à André de Ridder, qu'on connaît un petit peu parce qu'il a travaillé avec Damon Albarn notamment, et à cet orchestre de chambre Stargaze, qui est la chambre est grande sur ce disque.
Charles Ardenne.
La chambre est grande, j'avais très envie d'en sortir à chaque piste. C'était monumental, j'ai trouvé aussi pour moi monumental échec par rapport aux ambitions, par rapport au projet, par rapport à la réalisation. J'ai vraiment dû m'accrocher pour tenir de piste en piste et le réécouter. Heureusement qu'il y a Perfume Genius au programme, c'était un peu ma récompense après.
Bon, avant de continuer cette discussion qui s'annonce animée, on va dire, on va écouter un extrait de cet album choisi par vous, Christophe Comte. C'est la première plage du disque Summer Light. Summer Light, Dirty Projectors, Christophe Comte. C'est difficile de résumer cet album, vous l'avez dit, qui est monumental, 24 plages très différentes les unes des autres.
Déjà, c'est difficile de le résumer parce que c'est un disque qui n'a pas vocation à subir les écoutes contemporaines. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter d'une traite. Alors certes, c'est une concentration que peut-être les gens n'ont pas aujourd'hui. Ça, c'est encore une fois une œuvre qui ressemble à quelque chose d'un autre temps. Moi, qui m'a fait penser, parce qu'il faut un peu dédramatiser tout ça. On cite Mahler, Olivier Messiaen, je sais plus, Stravinsky. Enfin voilà, bon, il y a des références classiques évidentes, mais c'est avant tout un disque de pop. C'est un disque finalement qui est assez qui s'inscrit dans une longue lignée, que ce soit évidemment Brian Wilson qu'on entend, enfin pas lui, mais on entend son écho.
Le sang,
on entend dans le morceau qu'on a écouté en intro de l'émission Robert Wyatt, enfin des gens comme ça qui ont travaillé sur cette matière un peu cette zone un peu grise de entre le classique et la pop. Bon, alors après j'ai entendu l'avis de Charles, donc je le connais déjà. Je peux comprendre parce que c'est un peu l'avis général sur ce disque. Alors moi je suis assez surpris. Parce que aujourd'hui, ou dans la presse musicale, par exemple, tout, à peu près tout est encensé sans vraiment d'échelle de valeur. Ce disque a été un petit peu méprisé, un peu négligé. Pourquoi ? Parce que je pense que justement, il demande une écoute tellement concentrée que voilà, ça va à l'encontre de l'air du temps. Hein, faut bien dire ce qui est. Et David Langstreet est quand même un type qui a une vision depuis très longtemps. C'est un groupe qui a commencé, comme vous l'avez dit, à Brooklyn, qui aujourd'hui, c'est même pas un groupe, c'est lui. Mmh. Aujourd'hui, il a trois chanteuses avec lui, qui sont, vous savez, Charlie et ses drôles de dames un peu depuis quelques années, et les voix sont vraiment l'élément central. Les voix de ces trois filles, sa voix, et puis là, des chœurs. Donc il y a quelque chose autour de la voix, moi, que je trouve assez bouleversant. Je trouve que c'est un mélodiste qui est absolument voilà, prodigieux. C'est quelqu'un aussi qui a une carrière, une deuxième carrière très étonnante. Il a fait un album avec Björk.
Avec Björk, oui.
Il a été dans la production d'albums de Kanye West, de Frank Ocean. Il a fait le titre de Paul McCartney qui cartonne le plus sur les réseaux sociaux et qui cartonne le plus sur les plateformes de streaming, qui est un titre qui n'est pas du tout le Paul McCartney, mais avec Kanye West et Rihanna. Il est dans les crédits de plein d'albums comme ça, et il fait également son groupe, sa musique, de manière assez obstinée, et je trouve que depuis quelques albums, il a changé vraiment beaucoup de forme. Le précédent album n'était pas un album, c'était une collection de 5 EP, où chaque personne du groupe, c'est-à-dire les trois chanteuses et lui, avait autant voix au chapitre, c'est-à-dire chacun chantait, composait, et c'était assez beau, parce que ça durait toute l'année comme un feuilleton. Et c'était tout l'inverse de ça, il avait embrassé, si vous voulez, ce truc de l'écoute un peu distraite, donc il s'est dit on va faire des EP. Et là, c'est tout l'inverse, évidemment. Ce disque, comme vous l'avez dit, a commencé en 2020, suite aux incendies qui ont ravagé Los Angeles. Il est sorti au moment où les incendies reprenaient, donc il a quelque chose d'un peu sorcier. Et même lui, moi, je l'ai interviewé en visio, il était chez lui à Los Angeles, et il disait c'était très étonnant, parce que cette image qu'on voit de la pochette, de la fenêtre de sa maison avec l'extérieur, eh ben, c'était un peu voilà, le chaos autour de lui. Et ce disque donc a pour thème le réchauffement climatique, évidemment, croisé avec son histoire personnelle. Il vient d'être père d'une petite fille, et donc évidemment ça embrasse ces questions de l'avenir de la planète, etc. Mais de manière assez légère, c'est pas... voilà, c'est pas une espèce de bréviaire comme ça de la survie de la planète. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus sensitif finalement, avec des pointes d'humour, même si le côté solennel du disque ne le montre pas forcément. Et voilà, je trouve que c'est un disque magnifique. Peut-être effectivement qu'il n'a pas disons. En termes de songwriting, on va dire, peut-être qu'il n'est pas à la hauteur de son ambition, mais moi je trouve pas. Je trouve que tous les morceaux sont assez exceptionnels, mais bon.
Ah bah, voilà. Bon, Charles Arden.
Oui, tous les morceaux sont assez exceptionnels. Moi aussi j'ai trouvé ça dans le mauvais sens du terme, je dirais. Par où commencer ? Les bons sentiments, ça fait pas forcément de la bonne musique. Qu'il soit sensible au réchauffement climatique, qu'il ait ses enjeux biographiques fantastiques. Le problème avec ce projet, c'est que, enfin, je trouve que c'est vraiment forcé dans la réalisation. Tout est forcé. Cette question d'enjeux climatiques, franchement, il y a une piste, la 16, c'est la pire. An Inhabitable Earth. En fait, il lit le premier paragraphe d'un bouquin de 2019. C'est lu, mais en même temps chanté à peu près, chantonné. On ne sait pas si c'est une impro. Dans tout ce disque, c'est un peu ça.
C'est pas inintéressant de lire.
C'est pas inintéressant.
Un livre qui porte sur ces questions-là. En plus, c'est un
ça
livre
fait pas
qui...
de la musique de lire un bouquin ou de l'improviser ou de le musicaliser.
C'est une grande tradition dans la musique de lire des, enfin, de citer des, enfin, ça a été
de citer. Mais tu vois, tu vas pas en faire un.
Mais
en faire un morceau.
À quel endroit se situe l'échec pour vous, Charles?
Au début, ensuite au milieu, et puis à la fin. À l'origine, le projet, donc, ce projet écologiste, si ça motive un vrai projet artistique, très bien, mais ça peut pas être un projet artistique en soi. Et donc, on l'a dit, le disque s'appelle Song of the Earth, qui est la traduction en anglais d'Acid von der Erde de Mahler. Qu'est-ce qu'il en fait, très concrètement dans cet album? Parce que Christophe nous dit, il faut pas trop faire attention à ça, mais en même temps, c'est lui qui nomme l'album comme ça. Et tout au long de l'album, en fait, il tente de s'approprier, de citer, d'utiliser le langage de Mahler, mais d'une manière vraiment, vraiment minimal et vraiment, ça fait vraiment grand débutant, faire des cartes ascendantes au cuivre ou faire des flûtes lointaines en improvisation, c'est pas ça le chant de la terre de Mahler. Christophe disait aussi, ce qu'il faut dans cet album, c'est une écoute attentive, se plonger dedans. Bah, justement, des chants de la terre de Mahler, j'en ai entendu un paquet, je sais ce que c'est une écoute attentive, on sait ce que c'est, et le problème de cet album, c'est aussi que sur une même piste, il va changer 6 fois de pied, et pour boucler la boucle avec ce qu'on disait, justement, le dernier album qui était justement les 5 EP, la collection de 5 maxi, qui nous présentait un univers de chacun des membres du groupe Dirty Projector, mais ça a changé entre-temps, et à la fin qui les réunissait, c'était 5 univers, mais il y avait beaucoup plus de cohérence, de complémentarité, de... Ouais, même d'unité.
Mais sur l'aspect pop dont parlait Christophe Comte, sur les voix, là, c'est même ce travail-là...
Ben ouais, c'est ça le problème, parce que pour moi, le fait qu'ils veuillent s'inspirer ou des fois même coller à l'esthétique de Mahler, ça fait que l'aspect pop, en fait, il le perd, parce que soit les instruments, il leur fait jouer du mauvais son orchestral, soit, un peu comme on l'a entendu avec la première piste, et il faut l'écouter au casque, hein, c'est assez ridicule, ces voix qui passent d'un écouteur à l'autre, comme un vieux ping-pong, comme on peut s'amuser sur les... Pardon, hein, je suis un peu dur, mais c'était vraiment pas marrant.
Et le travail de l'orchestre Stargaze, c'est pareil, on le sauve pas.
Comme disait Christophe, il y a une grande tradition de pop symphonique, de rock symphonique, il y a des expérimentations fantastiques. Il y a plusieurs façons de faire d'ailleurs. Ça peut être des groupes qui font jouer leurs morceaux existants par un orchestre symphonique pour leur donner une autre dimension. Ça peut être aussi des gens comme, on en a parlé, Björk, avec laquelle il a bossé, qui trouvent des sons nouveaux grâce à l'orchestre. Là, ça fait encore un peu cet album où on fait venir un orchestre... c'est même difficile de juger son niveau, hein. Et puis c'est pas un orchestre non plus de premier plan. Et pour ce qu'on leur demande, c'est difficile d'évaluer, je trouve.
Song of the Earth, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Dirty Projector,
oui, il vaut mieux.
Chez Nonsense Records. Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles, c'est à nous. C'est l'heure de votre coup de cœur aujourd'hui. Kiss Facility.
Il y a des jours comme ça où vous cliquez sur le bon lien. C'est ce qui m'est arrivé avec Kiss Facility. Je clique, j'écoute, et là je me dis, oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Kiss Facility innove en mélange shoegaze, dream pop et sonorité orientale hantée, un film lynchien qui se passerait dans le désert moyen-oriental, en gros. Derrière Kiss Facility, un duo formé par Maya Alkateri et Salvador Navarrete, la première a grandi aux Émirats Arabes Unis en Égypte en écoutant les tubes de la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum, comme les expérimentations indus radicales de Genesis P. Orridge, grand écart fructueux. Plus tard, installée à Londres, Maya contacte Salvador Navarrete sur Instagram, ce que font d'ailleurs beaucoup d'artistes actuellement, je pense notamment aux chorégraphes La Horde, qui sont entrés en contact avec Madonna par DM Insta. Je referme la parenthèse. La paire se rencontre, le déclic se produit. Salvatore Navarrete a lui déjà un solide pied dans la musique puisqu'il est producteur sous l'alias Sega Bodega. Il a monté le collectif de musique londonien Nuxi avec les DJ Shy Girl et Coucou Chloé, a produit de la musique pour Earthsitter, Okaloo, mais aussi le featuring entre Rosalia et Björk sorti en 2023. Maya et Salvador créent ensemble un monde tortueux et mystique, un pont entre une tradition de chant en arabe et des références indie-rock assumées rassemblées sur un premier EP ésotérique. Maya Al-Kateri explique « Le seul but derrière Kiss Facility est de devenir la voix des femmes du Moyen-Orient qui sont opprimées et doivent vivre une double vie qui les éloigne de leurs rêves. » Sur le morceau qu'on a entendu en intro, ils ont convié Poison Girlfriend, projet d'une figure culte de la scène japonaise des années 90, j'ai nommé Noriko Sekiguchi. Alors Poison Girlfriend était connue pour mêler de façon hyper avant-gardiste de nombreux styles musicaux, trip-hop, pop électronique, ambiante et j'en passe, à l'image de Kiss Facility qui explose les chapelles musicales pour produire une musique syncrétique. Le duo fait partie d'une scène musicale contemporaine autant inspirée par le clubbing que par le lyrisme adolescent, une scène avide d'expérimentation, d'atmosphère habitée, de nappe spirituelle et d'un romantisme mélancolique. Je pense à la formidable musicienne américaine Earthsitter ou à la française Okaloo qui connaît un beau succès cette année avec son nouvel album Chock Enough. Une scène qui produit des musiques aussi tendres que chaotiques, dérangeantes et excitantes, tout à la fois reflet et remède de notre époque un peu anxiogène.
Merci Carole Wanet. Kiss Facility, le titre de l'EP c'est ésotérique. Quel est le dossier que nous conseillez dans les Unrockables ce mois-ci?
Vous pouvez nous retrouver en kiosque avec un dossier IA. On a interrogé 19 artistes sur l'IA et le titre c'est Une amie qui vous veut du bien. Est-ce qu'on aime ou pas l'IA?
Septième album de Perfume Genius alias Mike Adreas, petit génie de l'indie pop découvert en son temps sur le réseau MySpace. L'auteur et interprète assure que cet opus est, dit-il, sa confession la plus directe. Déclaration qui pique la curiosité tant Mike Adreas se raconte sans filtre depuis ses débuts, dans sa fragilité émotionnelle, son homosexualité, ses addictions. Là où le précédent album était ouvertement expérimental avec un titre éloquent, Ugly Season, celui-ci est d'une facture rock et folk, on va dire plus classique, plus collective aussi, et son titre Glory est un peu plus lumineux, dirons-nous. Un avis, Charles Ardenne.
Oui, lumineux album, et comme vous le résumiez très bien, c'est un album plus collectif, c'est un album plus ensemble, plus en équipe, alors c'est paradoxal, qui du coup peut-être ressemble plus à des formes classiques qu'on pourrait connaître de rock indé, mais qui en même temps est toujours aussi personnel, aussi intime, peut-être même plus.
Christophe Comte.
Bah, la première écoute, je me suis dit, tiens, il va mieux. C'est vrai que c'est un disque presque, à la fin, le premier titre, ouais. On a l'impression d'entendre REM ou ce genre de groupe. Puis après, bon, les textes, on voit que c'est pas réglé. Après, c'est un disque, moi, qui m'a laissé un peu dubitatif sur, justement, sa bipolarité, si je peux employer ce mot aujourd'hui, qui est un peu compliqué à employer, mais avec ce côté classique d'un côté, puis la deuxième partie qui revient un peu à plus d'expérimentation, qui, moi, me semble plus intéressante.
On va écouter le morceau que vous avez choisi, Charles Ardenne, c'est « It's a Mirror ».
Down.
It's a Mirror, première plage du nouvel album de Perfume Genius Glory. Charles Arden, c'est vrai que, comme le disait Christophe, on pourrait avoir l'impression d'être projeté plusieurs années en arrière quand on entend ça.
Complètement. Il faut bien replacer ça dans le cadre de son parcours, de sa discographie, écouter les albums d'avant, connaître d'où il vient, pour se rendre compte qu'en fait, ce retour en arrière par rapport à ses morceaux précédents, à ses albums précédents, c'est une manière aussi pour lui d'avancer, de trouver un collectif, justement, pour parler aussi de tous ces de toute sa vie, de tous ces enjeux biographiques que vous aviez résumé. Et comme le dit Christophe, l'album en fait il réévolue ensuite. C'est pour ça que j'ai choisi en fait la première piste. Je l'ai aussi choisi parce que c'est difficile de trouver un court extrait qui soit vraiment représentatif d'une piste, parce que je vais pas reparler de Dirty Projectors, même si je viens de faire une prétérition, mais là lui il y a une vraie évolution au sein des pistes, il y a un vrai parcours, ça change, mais avec une cohérence. Et il y a aussi ça au fil de l'album. Et en fait, il va revenir à quelque chose de plus intime aussi dans la prod, dans la production qui est vraiment remarquable. Où voilà, de toute façon, c'est Perfume Genius. Il revient à l'essence de cette voix qui a l'air fragile, mais qui en même temps, c'est exactement où elle va. C'est bouleversant, je trouve.
Quel serait l'adjectif que vous utiliseriez pour décrire Perfume Genius? C'est-à-dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous disiez, il faut connaître son parcours.
Perfume et Genius, ça décrit bien en fait le personnage. D'ailleurs, c'est une référence au livre de Susskind, le parfum. Mm-hmm. Donc, il y a cette dimension d'un parfum, de quelque chose d'aérien, quelque chose qui peut être évanescent. Il y a Genius, le gars, c'est un génie, quoi. C'est vraiment...
Vraiment?
Ah ouais, vraiment auteur, compositeur, interprète, danseur aussi. Il a un univers. Seul, vous le mettez seul au piano, il vous tient une salle pendant des heures. Et le parfum, c'est une belle métaphore, je trouve, parce que voilà, c'est aussi quelque chose de fin, de délicat, mais qui peut être très intense en même temps. Susskind, il en fait, il rappelle que ça peut même être un outil
de mort.
Serial killer.
Oui, exactement. Christophe Comte.
Moi, j'étais un peu sur ma faim sur ce disque. Hein. J'aime beaucoup Perfume Genius. J'aimais beaucoup ses débuts très fragiles, justement, au piano. Je trouve que petit à petit, ses albums sont devenus... Alors, je trouve que, en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est dans l'industrie musicale en général, c'est la surproduction. Là, pour le coup, la planète, elle n'est pas du tout prise en compte. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce genre de disques sont finalement assez communs. C'est un parfum assez ordinaire pour moi. Alors, derrière, il y a la personnalité, il y a les textes, il y a ce parcours qui est absolument délirant, qu'un être humain ait pu concentrer autant de malheurs.
On peut peut-être revenir dessus, parce que moi je l'ai dit très rapidement, mais c'est quoi le parcours de ce garçon?
Je crois qu'il a fait une tentative de suicide quand il était adolescent, il a eu des décès tragiques dans sa famille, son homosexualité a été pour lui un poids pendant très longtemps, il a été agressé, il a subi tout ce qu'on peut imaginer comme avare pour un être humain. Et puis quand il est arrivé, évidemment, à faire de la musique, forcément, il y a un côté cathartique et tout ça est revenu. Et sur ce disque-là, c'est encore le cas. C'est le fil rouge de toute sa discographie, de toute sa carrière. Effectivement, comme le disait Charles, c'est aussi un danseur. Donc il y a quelque chose de chorégraphié dans sa manière de composer aussi. Après, là, sur ce disque-là, je ne sais pas, j'ai eu du mal à me dire que la singularité qu'il y avait chez lui pendant très très longtemps pouvait rentrer dans ce cadre, en tout cas sur une partie du disque, comme j'ai dit, sur ce cadre finalement où on avait l'impression un peu d'entendre le tout venant de l'indie rock américain comme on en voit depuis des décennies maintenant, où les chansons m'ont pas paru absolument remarquables et bouleversantes, dans le sens où voilà, il y a des albums clés de ce genre-là. Je pense à Elliott Smith, je pense à Stephen Stevens, à REM aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui sont voilà, des disques, quand ils sont arrivés, on les a pris de manière tellement... Et là, bon, on est un peu plus dans le tout venant. C'est assez beau, c'est bien écrit, c'est bien arrangé. Il y a ce producteur, là, Black Mills, qui produit absolument tout le monde là, en ce moment, mais de Bob Dylan jusqu'à Japanese Breakfast, enfin, le type est partout. Et là, il a cadré un peu trop, à mon goût, le son. Il y a un son, il y a un beau son. mais qui parfois manque de ces failles, de ces déraillements, de cette personnalité qu'avait Perfume Genius jusque-là.
Charles Arden, vous disiez l'album évolue, c'est-à-dire que là on a entendu quelque chose d'assez indie folk qu'on peut connaître. L'album évolue vers quelque chose d'autre.
Clairement. Et d'ailleurs, dès la deuxième piste, il assume un son qui est presque country, d'ailleurs, ce qui dans son parcours est très intéressant. Ensuite, vous avez Clean Heart, qui est vraiment basé sur un ostinato, un cœur de percussion, qui renvoie d'ailleurs à une piste plus tard dans l'album où il est enfermé dans le coffre d'une voiture, et avec voilà le roulis, la mécanique, le bruit du moteur qui l'enferme. La quatrième piste. Je vous fais un peu le déroulé, ouais. Parce que vraiment, on voit l'évolution. Me and Angel, ça, c'est vraiment la plus Perfume Genius, quoi. C'est vraiment lui, c'est vraiment le pur jus.
C'est-à-dire
moi et un ange, moi au piano. Il y a une petite batterie, mais on pourrait même l'enlever si on refaisait le mix. Ensuite, Full On, la voix s'ouvre encore et acquiert des nouveaux paysages. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. C'est il n'est pas, et notamment, je trouve, dans cet album, concentré sur ses petits malheurs, sa petite psyché, ça. À chaque fois, il aspire à des horizons plus ouverts, il aspire à l'extérieur, à partir, à bouger. La première piste, It's a Mirror, c'est un miroir. En fait, déjà, il y a des choses profondes qui se disent. C'est déjà une dénonciation du fait de se regarder dans le miroir. Et puis, c'est aussi l'histoire, en fait, d'un compagnon qu'il a quitté parce qu'il lui a rejeté un mauvais miroir de leur relation. Il explique que le miroir, c'est aussi ce qui bloque l'horizon. En même temps, il brise pas le miroir non plus complètement. Donc, c'est vraiment un parcours passionnant. Plus tard, il y a Capezio, piste 7, qui est un hommage aux chaussures de danse. Plus tard, il y a une piste qui s'appelle Dion, qui, en fait, je pense, est un hommage à John DiMucci, qui est un vieux chanteur à l'ancienne de doo-wop mélancolique.
Seulement, qui a fait un album avec Phil Spector, qui est absolument incroyable.
C'est vrai, ouais, ouais.
Et je pense que c'est un peu cet album-là qui est la référence de tous ces types, justement, de l'indie rock américain depuis très très longtemps, qui a un album qui n'a pas du tout marché à l'époque, qui est devenu culte, produit par Phil Spector au moment où il était le plus fou. Et je crois qu'il y a dans ce disque-là l'ambition de quelque chose de cet ordre-là.
On va rappeler le titre de cet album, si c'est un album culte.
Alors,
c'est...
je me souviens plus du titre sur le moment.
On va le retrouver, on le mettra sur la page.
Il date de 77 ou 75 ans.
Non, mais clairement, parce qu'il y a tout ce travail en plus sur la voix dans cette piste, qui est un travail de prod que j'ai trouvé très intéressant. Blake Mills, c'est vrai qu'il produit tout le monde en ce moment, mais là je trouve qu'il est vraiment impliqué dans cet album dont il est co-auteur. Et puis ça finit sur la piste titre, sur Glory, qui est un très bel haïku qui finit sur du bruit blanc, quoi. C'est beau.
Charles Arden, il a beaucoup aimé, donc on est très content qu'il ait passé.
La pochette est marrante.
Oui, on dirait qu'il est mort, c'est ça, hein. Il est allongé par terre.
Une pochette mise en scène, voilà. Il y en a beaucoup en ce moment comme ça. Et donc pour le vinyle, c'est voilà, maintenant ça, les pochettes sont à nouveau des espèces de mises en scène incroyables.
Mm-hmm. Glory de Perfume Genius chez Matador Records. Et Perfume Genius sera en concert au Trianon à Paris le 30 octobre. Prochain, Carole Boinet, Charles Arden, Christophe Comte, merci d'être venu dans les Midis de Culture. Toutes les références, les infos sont évidemment sur la page des Midis.